CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Johan pour le mag de CFM, on est ensemble pour une petite demi-heure. Toulouse, 21 septembre 2001, 10h18. Pour tous ceux qui s'en souviennent, en particulier les Toulousains, c'était le plus grand accident industriel qu'on ait eu depuis la guerre 1945. Un procès redémarre cette semaine. Philippe Saunier, responsable CGT pour le groupe Total du suivi de ce procès AZF, fait le point sur ce qui s'est passé depuis 15 ans et ce qui va se passer pendant 4 mois, la durée de ce procès. Quelquefois, il se passe des événements, les journalistes vous les restituent, c'est un événement, il y a même des correspondants sur place, on a des images avec l'événement derrière, que ce soit une avalanche, un tremblement de terre, des choses comme ça. Et puis, après, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on enquête? Est-ce que vraiment on enquête sur le avant l'événement? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que les conditions étaient réunies pour que ça arrive? Ou est-ce que c'est la faute, t'as pas de chance, c'est la fatalité? M'étonnerait que les tribunaux, quand ils enquêtent, ils disent ça. Ils disent la fatalité va venir se présenter à la barre, on va lui poser des questions et éventuellement on va la mettre en examen. C'est pas le cas pour l'événement qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit d'un événement qui a eu lieu en 2001, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, 2001, des années, le 11 septembre, non, c'est le 21 septembre et ça se passait à Toulouse. On a même l'heure exacte parce qu'il y a eu vraiment un avant et un après, il y a eu un souffle, il y a eu une explosion, il y a eu des blessés, il y a eu des immeubles dont les vitres ont volé en éclats, enfin il y a eu des tas de dégâts. Et puis on a dit, puisque c'était juste après le 11 septembre, c'est forcément un attentat et on a cherché du côté de l'attentat. Et puis, aujourd'hui, il y a encore un procès qui s'ouvre, mais celui-là en correctionnel. Pour parler de ce sujet que je ne connais pas bien, moi, j'ai Philippe Saunier en studio, qui, pour la CGT du groupe Total, est responsable du suivi de ce procès AZF. On en parle cette semaine parce que il y a effectivement du nouveau du côté de ce procès. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, je dis des bêtises, mais n'empêche que quand il y a un événement, on est bien obligé, après, de se demander quelles étaient les circonstances de cet événement, et puis aussi rappeler pour les jeunes générations les dégâts qu'il y a eu.
Oui, effectivement, rapidement, on peut dire que c'est la plus grosse catastrophe industrielle qui nous a touché sur le sol français après la Seconde Guerre mondiale, hein. Je rappelle rapidement 30 ou 31 décès, selon qu'on compte immédiatement ou en décalé ce nombre de décès, mais surtout sur le nombre de blessés aussi, d'après la Sécurité sociale, plus de 11 000 dommages corporels et une ville largement touchée, puisqu'on parle de 59 écoles endommagées, 55 000 logements touchés, etc. Et puis aussi la fermeture de l'usine avec tous les emplois directs et indirects, tous les emplois qui travaillaient, ce qu'on appelle les emplois induits, qui travaillaient autour de cette activité. Voilà rapidement le constat à l'image en termes de dégâts.
Alors la ZF, c'est ce qu'on appelait l'ONIA quand on était Toulousain. On sait que dedans, il y avait des produits chimiques. Bon, on sait que c'était un classement qui date d'une autre catastrophe qui, elle, avait eu lieu en Inde. C'était Bhopal, puis il y a eu en Italie Seveso. Et il y a même une législation sur la protection, de ne pas faire de bêtises quand on manipule certaines substances. Moi, ce que j'ai entendu à l'époque, c'est qu'il y avait eu un mélange entre deux produits qui n'auraient jamais dû être rapprochés l'un de l'autre.
Exactement.
Et alors quoi? Ces salariés de Total, ils ne savaient pas ça?
Alors, non seulement on le savait, mais on a déjà eu une explosion importante avant-guerre à ce qui s'appelait effectivement l'Omnia à Toulouse. On a eu des explosions sur les engrais à plusieurs reprises. On en a comptabilisé 6 dans le monde importantes. Et les engrais, l'ammonitrate, hein, ou on dit aussi nitrate d'ammonium, selon son niveau de réglage dans la fabrication, soit c'est un engrais, tout simplement ce que tout le monde connaît, soit en le réglant différemment, c'est une base d'explosifs extrêmement connue, puisque c'est déjà ce que les Allemands mettaient dans les fusées V1, V2 en direction de Londres. C'est l'explosif du pauvre, c'est un explosif qui est facile et pas cher à fabriquer et de fort longue date. Et tout le monde sait, dans la profession, j'insiste sur dans la profession, qu'il ne faut pas mélanger ce nitrate qu'on appelle industriel quand il est réglé un peu différemment d'un certain nombre de produits, alors que cette usine fabriquait différents produits, dont ce qu'on appelle des produits incompatibles, des produits qu'il ne faut surtout pas mélanger. Et ce qui a explosé, c'est pas le nitrate agricole, celui que tout le monde connaît à la campagne, c'est tout simplement le tas de rebuts, c'est-à-dire ce qui n'était pas vendable, parce que ça ne correspondait pas, finalement, à la norme. Et donc, ces déchets qui étaient entassés n'importe comment, on y reviendra, c'était à mi-chemin, quelque part, entre ce qu'on peut appeler un nitrate industriel ou agricole, puisque précisément, c'était les rebuts, c'était ce qui n'était pas aux normes.
Bon, avant de s'appeler AZF, effectivement, ça s'appelait aussi l'APC, azote et produits chimiques. Donc, dans l'ensemble de cette usine, il y avait des tas de produits. Alors, comment vous me dites que ce sont des déchets qui ont explosé parce qu'ils ont été rapprochés d'autres éléments et que c'est le mélange qui peut être détonant? Alors ensuite, on a entendu que pour vérifier cette hypothèse, on a procédé à des expériences de laboratoire pour voir si telle et telle condition réunie faisait effectivement le même résultat. Et quoi? On en est sûr?
Alors, on en est sûr du point de vue des experts officiels, c'est-à-dire les experts mandatés par la justice. C'est ce qu'on apprend partout, hein. Moi, j'ai travaillé dans les engrais il y a longtemps maintenant, mais c'était mon boulot de fabriquer de l'ammonitrate. Et les premiers jours de la formation que j'ai eue, les anciens étaient pour me conditionner, moi qui avais 18 ans à l'époque, me disais fais attention, là tu fabriques quelque chose qui peut exploser, faut pas le mélanger avec n'importe quoi. C'était connu dans la profession. Et en ce qui concerne les essais qui ont été faits après l'accident, pas seulement au laboratoire, mais sur le centre militaire de Gramma, c'est-à-dire en réel, hein, c'est un centre d'essais de l'armée, eh bien évidemment, ça explose quand on le mélange avec un certain nombre d'autres produits qui étaient également présents dans l'usine. C'est-à-dire que la particularité d'AZF sur Toulouse, c'était précisément de fabriquer aussi des produits chlorés qu'il faut surtout pas mélanger, d'une part, dans une partie de cette usine, et dans l'autre partie de l'usine, des ammonitrates.
Alors, vous allez nous expliquer comment c'est possible que, donc, du personnel formé, on n'imagine pas autrement que des gens qui travaillent dans la chimie ne soient pas formés à ça, travaillent dans le déchet, hein, dans le déplacement, dans une zone où ça s'est trouvé, que ça se mélange. Mais avant, vous savez ce que c'est que la radio, on fait une petite pause musicale. Come on. Everything that glitters is not gold.
CFM, le mag, tous les jours, 12h30.
On est toujours en compagnie de Philippe Saunier, qui pour la CGT du groupe Total est responsable du suivi du procès AZF. Une conférence de presse a eu lieu hier parce que ce procès repart en correctionnel ce coup-ci, parce qu'il n'y a pas de procès d'assises là. Il y a des gens qui meurent, il y a un accident malheureux. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas mélanger ceci avec cela, mais comment c'est possible que du personnel qui travaillait là l'ait fait ? Ils ne le savaient pas, eux ?
Eh bien, si les professionnels le savent, le problème, c'est que c'était pas les professionnels qui géraient cette partie de l'usine, puisque avec ces phénomènes de sous-traitance et de précarité qu'on connaît maintenant, on peut le dire partout, la partie de gestion des déchets était sous-traitée, la partie de nettoyage de l'usine était sous-traitée, la partie de reconditionnement des sacs qui étaient donc reconditionnés et vidés pour le peu qui en restait était sous-traité. Le ramassage était sous-traité et on a créé une chaîne, je dirais, d'ignorance qui s'est additionnée finalement dans la gestion de l'entreprise, puisque dans la logique du patron, ce qui n'est pas directement lié à la valeur ajoutée, c'est-à-dire le produit vendable, ça ne l'intéresse pas et donc on sous-traite. Et donc, on a sous-traité sur, en plus, 4 entreprises différentes. Et pour en rajouter, on a utilisé des salariés précaires intérimaires qui n'avaient strictement aucune formation sur les risques chimiques. Donc, toutes les conditions étaient réunies de l'ignorance. Ce qui fait qu'au bout du bout, dans un hangar qui a été abandonné des hommes et des dieux, puisque c'était un hangar confié à la sous-traitance, on s'est retrouvé avec des produits qu'on va appeler incompatibles, qui ont été entassés au même endroit.
Ça veut dire que 31 morts, 55 000 le logement escagassé, 15 000 blessés, c'est le prix qu'a économisé Total en sous-traitant.
Exactement. Sous-traitance, déréglementation du travail, puisqu'en plus on rajoutait la question des intérimaires à cette chaîne que j'appelle chaîne de l'ignorance, pas par rapport aux gens, mais par rapport aux obligations finalement de formation qui n'étaient pas respectées et au cloisonnement aussi qu'impose cette espèce de compétition lorsqu'on utilise des entreprises sous-traitantes, non spécialisées en plus sur ces questions.
Bon, il y avait en plus un phénomène qu'on a fait que constater, c'est que l'urbanisation a englobé une usine chimique de type Seveso, c'est-à-dire considérée comme dangereuse pour l'environnement si jamais il s'y produit un accident. Et là, finalement, c'était presque en ville, quoi. Il y a les hôpitaux de Rangueil autour, Et du coup, je suppose que les pouvoirs publics se sont gratté la tête en disant, mais il y a peut-être d'autres cas de figure, finalement, où il va falloir revoir la chaîne d'information, puisque pour rompre la chaîne de l'ignorance, il va falloir être attentif à ce que les consignes de sécurité soient suivies, puis peut-être aussi que la pétrochimie implique que ça soit un peu plus isolé que ça.
Alors, isolé peut-être, mais je dirais que les morts, sur les 30 morts, c'est quand même 22 salariés présents dans l'usine, dont la plupart des sous-traitants, et les salariés des usines avoisinantes. Et je dirais qu'on peut toujours éloigner. Alphonse Allais voulait construire des villes à la campagne, et vous l'avez bien expliqué. En fait, évidemment, c'est l'urbanisation qui se rapproche des usines, et pas le contraire. Mais ça réglerait pas tout, parce que nous, d'avoir des morts au boulot, de toute façon, ça ne nous console pas. Alors évidemment, on n'aurait peut-être pas eu 55 000 logements de sinistrés, mais on aurait eu quand même des morts. Il faut rappeler quand même que sur le nombre de morts, il y a un seul mort qui est un mort, alors c'est évidemment dramatique, qui n'est pas un mort directement lié à son activité professionnelle.
Alors ça pose quand même aussi plus largement la question de l'utilisation de matières dangereuses. Il a fallu des années, par exemple, pour que l'amiante soit vraiment classé et interdit d'usage, mais ça veut dire qu'il y a eu des cancers de la plèvre, en veux-tu, en voilà, qui n'étaient pas encore reconnus comme maladies professionnelles. Tout le temps, on se heurte à « oui, mais ça coûterait trop cher, le principe de précaution ».
Alors, sur l'amiante, c'est même pire que le non-respect du principe de précaution, parce que le principe de précaution s'appuie sur l'absence de certitude de l'innocuité du produit. Or, l'amiante, on sait depuis un siècle que c'est dangereux. Par contre, il y a quand même une relation directe avec AZF sur l'amiante, c'est qu'aujourd'hui, les premières plaintes au pénal qui ont été déposées sur l'amiante datent des années 90. Et aujourd'hui, en France, il n'y a toujours pas d'audiencement d'un procès au pénal sur l'amiante. Nulle part en France, que ce soit par rapport aux plaintes sur une usine qui est pas loin d'ici, l'usine de Gaillac d'Eternit, où les plaintes datent de largement plus de 20 ans, l'usine Amisol à Clermont-Ferrand, les salariés de la construction et de la réparation navale sur Dunkerque, etc. Et là, on rentre dans l'aspect politique des affaires. C'est pourquoi, sur l'amiante, aujourd'hui, toujours pas de procès au pénal. On est loin de les 3 mois de prison avec sursis pour une claque administrée à l'ex-premier ministre ces jours-ci. Hein. Là, la comparution immédiate, ça marche. Et pour revenir à ZF, 15 ans après, pourquoi 15 ans après? Eh bien, tout simplement parce que Total a mis en place des moyens colossaux pour échapper à sa responsabilité. Donc, on repart à la case départ avec ce nouveau procès à Paris, donc le 24 janvier, tout simplement parce que des moyens énormes sont mis en place. Donc, ça va être le troisième procès en correctionnel sur l'amiante, tout simplement parce que on laisse les industriels, surtout si c'est des multinationales, non seulement manœuvrer sur l'origine de l'explosion, puisque il faut quand même savoir que Total, après l'explosion, a continué à pouvoir faire absolument ce qu'il voulait sur le site. Il y a un certain nombre de preuves qui ont disparu. C'est-à-dire qu'on n'a pas interdit les dirigeants, les cadres de Total, de faire le ménage sur le site. Il faut quand même le savoir, hein, après l'explosion. Et on les laisse utiliser un certain nombre de moyens juridiques avec une débauche d'avocats pour finalement, aujourd'hui, repartir à zéro sur un nouveau procès qui va durer 4 mois. Donc ça, c'est la caractéristique qui peut relier AZF à l'affaire de l'amiante. C'est la durée de l'effectivité, finalement, du rendu de la justice, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de coupable pénalement en France par rapport à l'amiante, et aujourd'hui, il n'y en a pas pénalement pour AZF.
Et on s'en va même plus loin que ça. On a l'impression qu'il n'y a pas de responsable. C'est la patate chaude. Vous avez commencé en disant, ben, on le sait, dans la pétrochimie, on sait qu'il ne faut pas mélanger ceci avec cela. On constate que pour que ça ait pu être fait, c'est que les gens qui faisaient ça l'ignoraient, pour plein de raisons. Ils ne sont pas responsables de leur ignorance. Mais quand on remonte en recherche de responsabilité, comme le ferait une cour pénale, chacun dit « Ah ben oui, mais on a toujours fait ça, on a toujours sous-traité. C'est pas de notre faute si l'entreprise sous-traitante n'a pas suivi les consignes de sécurité. On leur a envoyé peut-être un memento de 300 pages. C'était à eux deux. » En fait, il vaut mieux être avocat pour Total que salarié.
Oui, parce que par exemple, dans les archives, on retrouve une lettre du syndicat CGT de Grande Paroisse à ZF à la direction de la DRIR de 1990, où au mot à mot, on retrouve les alertes du syndicat en direction donc de l'autorité qui est en charge des risques industriels. On retrouve au mot à mot ce que finalement le juge de la cour d'appel précédemment en 2012 a retenu dans ses conclusions pour condamner AZF. Et donc la sous-traitance abusive, le manque de formation du personnel, la déréglementation du travail, le fait que la DRIR ne faisait pas son boulot en venant constater ces affaires-là, c'est écrit mot sur mot le 12 février 90. À l'Adria, j'ai retrouvé une lettre à peu près similaire de 1995 dans mon établissement de l'époque, la raffinerie Total, où on disait également la même chose, c'est-à-dire que c'est pas des dénonciations, des alertes qui n'existaient pas, elles existaient, ces alertes, sur le fait qu'à un moment donné, on ne maîtrise plus l'outil.
Ça veut aussi poser la question de justement des lanceurs d'alerte. C'est souvent les gens qui sont en situation de connaître les risques, les dangers que présente une situation. Et c'est souvent eux qu'on sanctionne en réalité.
Oui, j'ai eu moi-même une lettre d'avertissement puisque j'avais répondu à la presse sur ces sujets d'ailleurs, sur les problèmes de sous-traitance abusive. J'ai en mémoire le fait qu'on a un collègue dans une réunion de CHSCT qui était menacé par la direction parce que ce jour-là, la DRIR était présente dans la salle et qu'il a expliqué comment ça se passait en réalité. On est toujours dans cette configuration de menace dès lors qu'il y a un événement important et de chantage à l'emploi. Ça se cumule, menace par la direction et conditionnement sur le chantage à l'emploi pour ne pas dire véritablement ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on a ces phénomènes qui sont toujours permanents, qui ne sont pas récents, avec le chantage à l'emploi qui fait des dégâts pour qu'on puisse dire véritablement les choses. Et aussi, c'est important pour AZF, mais c'est important en général, on a un gros problème avec la DRIR, qui s'appelle maintenant DREAL, qui était l'autorité qui est en charge la question des risques industriels, puisque les inspecteurs des DREAL ne sont pas indépendants. Ils ont strictement qu'un statut qui leur garantisse leur indépendance, contrairement aux inspecteurs du travail, bien que pour les inspecteurs du travail, il y ait des offensives également pour leur retirer ce statut d'indépendance. En fait, l'inspecteur de la DREAL, aujourd'hui, obéit à sa hiérarchie et obéit au préfet. Et le préfet, on a une multitude d'exemples. Quand c'est une multinationale en face, eh bien, le préfet, il fait passer d'autres intérêts avant les questions de sécurité et de sûreté, dès lors qu'il y a un dossier qu'il va qualifier de sensible sur cette question des risques industriels. Et donc, au bout du bout, les inspecteurs de DREAL sont muselés. C'était le cas à ZF, puisque sur ce hangar, il y avait eu des alertes, et on retrouve strictement aucun écrit de la DRIR qui exige de l'entreprise de se remettre dans les normes.
Ce procès d'AZF, le troisième, débute cette semaine. Ça va durer 4 mois, parce qu'il va falloir reprendre un petit peu les choses dans leur déroulé. Vous suivez ça au nom de la CGT pétrochimie du groupe Total. Vous êtes responsable du suivi de ce procès AZF. J'espère que vous reviendrez à nos micros pour nous tenir au courant de ce que la presse raconte comme bêtise, vraisemblablement pendant cette période où il y aura une autre actualité à la une. Et donc, ils vont dire, encore AZF. C'était vachement longtemps, quand même.
Oui, c'est bien le but de faire durer. Le but de faire durer, c'est de faire oublier. C'est pour ça que, alors, en tentant bien sûr d'assurer l'innocence du groupe Total, qui d'ailleurs n'est pas cité à comparaître, hein. La direction du groupe Total n'est pas citée à comparaître, seul le directeur de l'usine et la filiale AZF sont cités à comparaître, ce qui est d'ailleurs fait l'objet de la part de la CGT d'une intervention pour demander à modifier les choses sur le périmètre des accusés. Donc ça, ce sera audiencé le 25 janvier, on verra ce qu'on dira le tribunal, puisque là, pour l'instant, la direction de Total a réussi à centrer finalement les responsables éventuels uniquement au niveau du directeur local et de la filiale, ce qui ne nous va pas. Et puis aussi à regarder aussi l'importance de la condamnation, hein, puisque j'ai fait un parallèle tout à l'heure avec une gifle. Si on démultipliait, ce serait pire qu'une condamnation à mort qui devrait être appliquée. Or, pour le jugement de la cour d'appel qui a déjà eu lieu mais qui est maintenant cassé, il est intéressant parce qu'il condamne quand même la filiale et le directeur local, mais on en est à des peines qui sont sans proportion. Je cite un chiffre, 200 000 euros d'amende pour la catastrophe d'AZF pour la filiale. 200 000 euros d'amende. Voilà. Donc il y a aussi des choses, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes qu'en correctionnel, nous ne sommes pas aux assises sur ce procès. Et cette demande d'introduire dans la loi la notion de crime industriel, c'est l'une de nos revendications. Eh bien, il faudra bien un jour qu'elle aboutisse. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Philippe Saunier, je vous remercie. Le mag du Kerserouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao, passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.